Donc nous reprenons le fil de ce cours qui, vous le souvenez, sous le titre « Textes sans frontières » est consacré à l'analyse de géographie littéraire avec deux définitions. L'une qui est des géographies discursives, la manière à travers laquelle les mots que produisent ou désignent ou font voir des espaces dans une fiction, et puis d'une manière plus littérale, l'analyse d'une géographie cartographique, c'est-à-dire l'introduction à l'intérieur de livres de fiction. J'ai laissé de côté, évidemment, l'immense littérature sur les récits de voyage, les livres de géographie ou les chroniques universelles, dans des textes de fiction, introduisent des cartes. La première série de cartes que nous avions analysées la dernière fois, il y a 15 jours, était une série de cartes allégoriques qui se sont introduites ou ont été introduites dans des romans français du XVIIe siècle, en particulier de la littérature de galanterie ou de la littérature de précieuse, a commencé en 1654 avec la carte de Tendre à l'intérieur du roman de Mademoiselle de Scudéry, La Clélie. Ces cartes allégoriques, on avait pu en suivre d'autres exemples, liées ou non introduites ou non dans des exemplaires du texte, parfois les accompagnant, parfois étant à l'intérieur du livre, avec ces variations sur les cartes de galanterie, de coquetterie, d'amour en l'île de Cythère. Cette analyse avait conduit à penser évidemment aussi à des préalables, des prédécesseurs, peu nombreux, mais qui existent, et on l'avait vu avec une édition du Orlando Furioso du XVIe siècle, avait conduit à penser au réemploi dans d'autres contextes, et en particulier de littérature polémique, de ces cartes à l'intérieur des livres, en particulier avec la carte de Jansénie, qui se trouvait dans un libelle anti-janséniste pour montrer ce territoire honni du jansénisme, et puis aussi, sans frontières, la traduction de ces cartes dans les traductions même des romans, comme le cas de la Clélie. Alors aujourd'hui, je voulais en arriver à ce qui avait été peut-être le point de départ pour moi de cette réflexion, c'est-à-dire l'introduction de cartes dans des éditions de la fin du XVIIIe siècle du Don Quichotte de Cervantes, cartes qui, cette fois-ci, ne sont plus des cartes allégoriques, mais sont des cartes représentant les supposés voyages du héros à travers les deux parties de l'histoire, celle publiée en 1605 et celle publiée en 1615. Pour commencer, si l'on parle de géographie littéraire et si l'on parle de Don Quichotte, il y a presque un passage obligé qui serait une référence à un texte fameux de Borges qui a pour titre « Les magies partielles du Quichotte ». Magias parciales del Quijote. C'est un texte qu'il avait publié en 1949 dans un journal, un quotidien de Buenos Aires, La Nación, et repris en 1952 dans le recueil qui a pour titre en français « Autres inquisitions ». Le point de départ de la réflexion de Borges, et vous verrez qu'il est proche de nos préoccupations, le point de départ, c'est pour lui le refus de Cervantes de considérer la réalité comme poétique et du coup de bâtir son œuvre, en particulier le Quichotte, sur une tension entre un monde imaginaire poétique, mais un monde réel, qui est le monde dans lequel se déroule l'action, qui lui est tout à fait prosaïque. Et introduit cette distinction, Borges, avec cette notation qui oppose cette distinction radicale du monde imaginaire poétique et du monde réel prosaïque qui est le monde dans lequel se déploie la fiction, avec cette remarque aux géographies vastes et vagues de l'Amadis, Amadis de Gaulle, un des grands romans de chevalerie, il oppose, Cervantes, les chemins poudreux et les sordides auberges de Castille, Imaginons un romancier de notre temps qui ferait figurer dans un récit parodique les postes d'approvisionnement en essence. Cervantes a créé pour nous la poésie de l'Espagne du XVIIe siècle, mais ni ce siècle ni cette Espagne n'étaient poétiques à ses yeux. Des hommes comme Unamuno, Azorín, Antonio Machado, qui s'étendrissent sur l'évocation de la Mancha, lui eussent été incompréhensibles. La conception de son œuvre lui interdisait le merveilleux. Pourtant, le merveilleux devait y figurer, ne fût-ce qu'indirectement, comme les crimes et le mystère dans une parodie du roman policier. Donc cette distinction amène à l'analyse par Borges des magies qui font entrer du merveilleux dans un récit qui est entièrement situé dans des lieux les plus prosaïques, communs à l'expérience du lecteur, de l'auteur ou du héros, les auberges sordides et les chemins poudreux de la Castille. Cette introduction donc d'un merveilleux dans une esthétique qui le refuse passe par différents dispositifs, et ces dispositifs, pour Borges, ont un point commun, c'est de produire la confusion entre le monde du texte et le monde du lecteur, entre ce qu'il appelle l'objectif et le subjectif. Il en repère certains des plus fameux de ces dispositifs qui amènent le lecteur à un trouble quant à la distinction entre le monde dans lequel il est, lui, lecteur, et le monde qui est le monde du texte. Par exemple, au chapitre 6 de la première partie, lorsque le curé et le barbier font l'inventaire et aussi l'autodafé de la bibliothèque de l'Hidalgo, de Don Quichotte. Sur les rayons de la bibliothèque de Don Quichotte, on rencontre un livre écrit par Cervantes, c'est-à-dire la Galatea, la première partie de la Galatea que Cervantes avait publiée en 1585, le seul ouvrage publié par lui avant 1605, et la première partie du Quichotte. Et le curé dit « il faut attendre la seconde partie ». Et jusqu'à ce qu'on voit cela, tenez-le, ce livre, la première partie de la Galatéa, dans votre maison. Donc un livre réel écrit par l'auteur du Quichotte dans la bibliothèque du héros lui-même. Un autre dispositif, c'est évidemment le dispositif du chapitre 9, lorsque l'histoire s'est interrompue brutalement à la fin du chapitre 8, faute de texte qui la narre et où le récit peut reprendre parce que le lecteur devenu auteur se met en quête d'une suite de cette histoire qui l'a enchanté et la rencontre dans un manuscrit à Tolède, mais un manuscrit qui est écrit par un historien arabe, Sidi Amete Ben Echeri, et que le lecteur devenu second auteur fait traduire par un morisque de Tolède. Ou encore, outre de ces vertiges qui font que le merveilleux s'introduit, non pas parce que l'on est dans des paysages arcadiens, comme dans le roman chevaleresque, mais parce que bouge et est brouillée la frontière entre le monde du texte et le monde du lecteur, c'est lorsque dans la seconde partie, dans les premiers chapitres, les personnages sont des lecteurs ou des commentateurs de la première partie. Et j'ai pu prolonger cette intuition de Borges en montrant qu'ils sont aussi des lecteurs de la continuation apocryphe de 1614 de Avellaneda, qui a écrit sa propre seconde partie du Quichotte avant même celle que Cervantes publie l'année suivante. Et à partir du chapitre 59 de la seconde partie du Don Quichotte écrite par Cervantes, il y a une présence extrêmement forte de cette ce livre de 1614, cette continuation apocryphe de Avellaneda, personnage jamais découvert avec certitude dans son identité réelle, et qui, du coup, là encore, renforce ce qui marquait le début de cette seconde partie, c'est-à-dire Don Quichotte, lecteur de Don Quichotte. Donc il y a tout cet ensemble de dispositifs qui vont dans ce sens de brouiller la distinction entre le monde du texte et le monde du lecteur et qui, du coup, introduisent du merveilleux dans la plus prosaïque des géographies. Cette mise en abîme, en quelque sorte, du texte dans le texte, de la frontière effacée entre objectif et subjectif. Borges en dresse quelques, sinon une généalogie, mais du moins quelques comparaisons, évoquant d'une part la seconde grande épopée indienne, après le Mahabharata, qui est la geste de Ramayana, dans lequel les héros rencontrent un livre dans lequel sont narrées leurs propres aventures, ou encore les Mille et une nuits. Et il en vient à des comparaisons non seulement avec des grandes épopées ou des grands textes de la tradition littéraire, mais aussi à une comparaison avec des livres, au moins un, de philosophie qui repose sur le même dispositif. Et voilà ce qu'écrit Borges. « Les inventions de la philosophie ne sont pas moins fantastiques que celles de l'art. Josiah Royce, dans le premier volume de The World and the Individual, qui est un livre de philosophie métaphysique 1899, publié aux États-Unis, qui est un livre réel, là, il ne s'agit pas d'une fable ou d'une invention ou d'une tromperie de Borges. Josiah Royce a formulé celle-ci, alors il cite le livre. « Imaginons qu'une portion du sol de l'Angleterre ait été parfaitement nivelée et qu'une cartographie y trace une carte de l'Angleterre. L'ouvrage est parfait. Il n'est pas un détail du sol de l'Angleterre, si réduit soit-il, qui ne soit enregistré sur la carte. Tout s'y retrouve. Cette carte, dans ce cas, doit contenir une carte de la carte qui doit contenir une carte de la carte de la carte et ainsi jusqu'à l'infini. » Et on retrouve cette, ici une première esquisse d'un des thèmes que vous savez fameux, très souvent cité, sans qu'on se réfère nécessairement à son origine, dans la perspective, dans la réflexion sur ces géographies emboîtées qui fascinent Borges et qui est finalement d'aboutir avec cette carte de la carte de la carte à son point extrême, son point de fuite, qui est la carte de taille identique au territoire qu'elle cartographie. Ce que l'on trouve ici sous une forme de fiction, non plus d'un livre réel de philosophie, mais d'une fiction inventée par Borges dans ce texte appelé « De la rigueur de la science », qu'il a publié plusieurs fois, remanié, plus que la première publication étant dans une revue de Buenos Aires, en 1946, Los Anales de Buenos Aires. Il l'a repris dans une des éditions de l'Histoire universelle de l'infamie et on la trouve le plus communément dans le recueil qui s'appelle en espagnol El Hacedor, c'est-à-dire difficile à traduire puisqu'il est traduit dans le cas de l'édition de la Pléiade comme l'auteur, avec un grand A. Borges jouant dit qu'en fait il avait pris en espagnol le mot hacedor comme une traduction de l'anglais the maker, celui qui crée, celui qui produit, le créateur effectivement, peut-être un des choix possibles, et l'auteur est celui qui a été retenu dans l'édition de la Pléiade. Et là c'est un texte apocryphe qu'il attribue à un certain Suárez Miranda, Viajes de varones prudentes, les voyages des hommes avisés. Livre 4, chapitre 45, Lérida, 1658, livre qu'évidemment vous ne trouverez pas à la Bibliothèque nationale de Madrid, qui est une invention de Borges, forgée à la fois par le déplacement d'un nom propre, Suárez Miranda, qui peut renvoyer à un auteur réel, Suárez de Figueroa, et le choix de Lérida, 1658, n'est pas au hasard non plus, il peut nous rappeler des cours que j'avais fait l'année dernière, puisque c'est la date et le lieu de la mort de Balthazar Graciano. Et deux textes, et ce texte si souvent cité, qui se déploie de la façon suivante, dans cet empire, un empire dont on ne précise pas l'identité, l'art de la cartographie parvint à une telle perfection que la carte d'une seule province occupait toute une ville, et la carte de l'empire toute une province. Avec les temps, ces cartes démesurées donnèrent plus satisfaction et les collèges de cartographes levèrent une carte de l'Empire qui avait le format de l'Empire et qui coïncidait point par point avec lui. Moins portés sur l'étude de la cartographie, les générations suivantes comprirent que cette carte dilatée était inutile et non sans impiété, elles l'abandonnèrent à l'inclémence du soleil et des hivers. Dans les déserts de l'Ouest subsistent des ruines en lambeaux de la carte, habitées par des animaux et des mendiants. Dans tout le pays, il n'y a plus d'autres reliquats des disciplines géographiques. Et la conversion de cette inspiration dans le texte philosophique de Royce, la carte dans la carte dans la carte, pour cette amplificatio qui est que la carte aux dimensions du territoire et qui donc par définition en elle-même se détruit ou se contredit et montre son inutilité et donc du coup son abandon. Et cette idée magnifique, quasi comme dans un tableau de Dali, d'une carte en lambeaux habitée seulement par des animaux et des mendiants. Alors, la réflexion de Borges se concluait avec quels effets sont produits sur le lecteur par cet effacement, ce brouillage, cette indécision introduite entre la certitude du monde réel qui est celui du lecteur et d'un monde de la fiction, des vastes géographies de la Madis. Et cet effet pour lui est évidemment le suivant. Pourquoi sommes-nous inquiets que la carte soit incluse dans la carte? Là, c'est le premier texte que j'ai cité, dans ma magie partielle du Quichotte, il revient à la carte imaginée par Josiah Royce, où les cartes emboîtées les unes dans les autres. Donc pourquoi sommes-nous inquiets que la carte soit incluse dans la carte, et les mille et une nuits dans le livre des mille et une nuits, que Don Quichotte soit lecteur du Quichotte, et Hamlet, spectateur d'Hamlet, la scène où est représentée à Elsineur l'intrigue qui est en fait jouée par les comédiens, l'histoire même de Hamlet, son beau-père et sa mère. Je crois en avoir trouvé la cause, dit Borges. De telles inversions suggèrent que si les personnages d'une fiction peuvent être lecteurs ou spectateurs, nous, leurs lecteurs ou leurs spectateurs, pouvons être des personnages fictifs. Donc le mécanisme se retourne sur une fiction qui est comme le réel et un réel qui devient possiblement une fiction. Alors c'est dans ce contexte, c'est pour ça que j'ai commencé avec Borges, que l'on peut s'interroger sur les significations qu'apporte à la lecture de Don Quichotte la présence de cartes géographiques qui donnent, comme réel sur un territoire réel à partir d'une carte réelle de l'Espagne, les itinérances ou les itinéraires d'un personnage imaginé, d'un personnage de fiction. Alors la première carte, et c'est celle que nous cherchions désespérément, donc ce n'est pas celle que vous avez sous les yeux, j'espère qu'on va la retrouver dans un des ordinateurs. La première carte qui est introduite dans une édition de Don Quichotte est dans l'édition de 1780 de l'Académie royale. Ce projet est intéressant dans la mesure où c'est une forme de réponse espagnole sous l'autorité de la Real Academia à une première édition monumentale du Quichotte en langue espagnole, mais publiée à Londres en 1738 sous le titre de Vida y Hechos del Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, la vie et les faits, ou les hauts faits de l'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche. C'est une édition monumentale, luxueuse, un grand in-quarto, 4 volumes, avec une illustration extrêmement précise et forte, et il y a une édition qui a été publiée sous le patronage de Lord Carteret, qui était un hispanophile et connaisseur de la littérature espagnole du siècle d'or, et qui a été publiée par Jacob et Richard Thompson, donc je le rappelais, en 1738, qui sont aussi d'ailleurs les éditeurs qui possèdent les writing copies ou les copyrights sur les œuvres de Shakespeare. Et c'est la première fois, dans cette édition monumentale, luxueuse, superbement illustrée, que se rencontre une biographie de Cervantes, écrite par Gregorio Mayans y Siscar, et un portrait de Cervantes, ce qui nous renverrait à d'autres thèmes qu'on avait étudiés ici sur le moment dans lequel la figure de l'auteur, à la fois sa vie narrée et son image représentée, s'introduisent dans les textes littéraires et donc, du coup, participent de cette rupture ou de ce changement de paradigme de l'écriture de fiction qui individualise l'écriture, qui fonde le jugement esthétique sur le critère de l'originalité et qui définit une première forme de la propriété intellectuelle ou de la propriété littéraire. Et pour Cervantes, cette association se trouve comme rendue visible dans cette édition anglaise, mais du texte en espagnol, de 1738, avec l'introduction du portrait et l'introduction de la première biographie. La réponse un peu tardive de l'Académie espagnole, qui avait commencé dès le début des années 70 une édition qui pouvait être comparée avec l'édition de Carteret, aboutit en 1780 avec, là aussi, un ouvrage monumental, un grand in quarto, 4 volumes, et pour être plus accessible, ce volume sera, cette édition sera rééditée dans un format in octavo en 1782, donc deux années plus tard, avec le même nombre de volumes, et donc évidemment un prix qui se trouve abaissé et un public d'acheteurs qui se trouve élargi. On voit qu'il y a là, dans cette édition, une édition qui va être placée sous le signe de l'autorité. D'abord, l'autorité institutionnelle. Sur la page de titre, elle est présentée comme la nouvelle édition corrigée par la Real Academia Española, par l'Académie royale espagnole. L'autorité est aussi une autorité institutionnelle, non seulement de l'Académie, mais aussi l'autorité de l'imprimeur, qui est Ibarra, et cet imprimeur, Joaquín Ibarra, était l'imprimeur de la Camara de la Chambre du Roi et l'imprimeur de l'Académie royale et aussi l'imprimeur de l'Académie d'histoire. Il y a donc une autorité institutionnelle dans laquelle se situe cette publication. Mais l'autorité est aussi une autorité philologique et biographique, puisque cette édition, même si son nom n'apparaît pas sur la page de titre, a été élaborée par un académicien de l'Académie royale qui s'appelle Vicente de los Ríos et qui a donné un état du texte présenté comme corrigé et qui, d'autre part, a multiplié dans cette édition, ce qui est une des caractéristiques de ces éditions monumentales devenues aussi éditions savantes, des paratextes, c'est-à-dire des textes qui ne sont pas le texte de Cervantes. Vicente de los Ríos a écrit un prologue. Il a introduit dans l'édition ce qui est un jugement critique ou analyse du Quichotte, Juicio Critico o Análisis del Quijote. Il a écrit sa propre vie de Cervantes et document qu'il nous retiendra un peu plus tard. Il donne à la fin du livre un plan chronologique du Quichotte, c'est-à-dire une chronologie des événements qui surviennent dans le roman. On voit donc que le texte de Cervantes, rendu à, théoriquement, sa plus grande exactitude philologique, est aussi enserré, entouré par une série de paratextes qui vise à, soit sur l'auteur, soit sur le texte, donner un état de savoir biographique ou critique. Et c'est là où on rencontre une carte hors texte, j'espère qu'on la verra tout à l'heure, mais de toute façon, le cadre est le même, et qui a pour titre « Carte d'une portion du royaume d'Espagne qui comprend les contrées que parcourut Don Quichotte. Mapa de una porción del reino de España que comprende los parajes por donde anduvo Don Quijote. Parajes, les contrées les régions, et où il a, en Douvres, il a chevalier errant en Dante, et donc renvoyé à l'idée du parcours de Don Quichotte, et avec dans le titre aussi, et les lieux de ses aventures. Et cette carte elle-même va, à la différence des cartes allégoriques que nous avions rencontrées il y a 15 jours, va se charger d'un poids d'autorité. L'autorité vient du crédit scientifique accordé à cette carte. Elle a été dessinée par Thomas Lopez, c'est indiqué dans le cartouche qui est sur la carte, et dans ce cas-là, il s'agit d'un cartographe des royaumes, des provinces, des villes d'Espagne, qui meurt en 1802, mais deux ans après, on publie un atlas administrativo-politique de l'Espagne à partir des cartes levées et dessinées par Thomas Lopez. Il a aussi le titre de géographe du roi depuis 1770 et il est membre de très nombreuses sociétés savantes espagnoles du temps. Donc une autorité cartographique qui est liée à ce géographe-cartographe Thomas Lopez qui publie des cartes bien réelles des divisions administratives ou des villes d'Espagne. Et toujours dans le cartouche est indiqué que le dessin de la carte par Thomas Lopez a été fait en suivant las observaciones hechas sobre el terreno, les observations faites sur le terrain par un personnage qui s'appelle Joseph de Hermosilla, qui lui est capitaine dans le corps royal des ingénieurs du roi et en même temps un architecte qui a dessiné les plans des nouveaux palais royaux, soit à l'Escorial, soit à Madrid. Il y a donc une autorité scientifique et technique qui est investie dans la production de cette carte par un géographe et cartographe du roi et sur la base des observations, des relevés sur le terrain faits par un ingénieur, capitaine des ingenieros, un ingénieur du corps royal des ingénieurs. Voilà qu'on a là une triple autorité, l'autorité institutionnelle, l'autorité philologique et l'autorité technique, scientifique, qui viennent se conjoindre dans le tracé de cette carte. Alors, quand vous la verrez, en fait, la carte repère 35 lieux marqués avec la division entre les trois salidas, les trois sorties de Don Quichotte. Pour, si vous vous souvenez de l'histoire, il y a une première sortie qui est du chapitre 1 au chapitre 5, la première série d'aventures et mésaventures de Don Quichotte, et qui, sur la carte, sont montrées par les points 1 à 4, avec des numéros qui indiquent ensuite une légende qui renvoie à ces numéros sur la carte. La deuxième sortie, elle est aussi dans la première partie, elle commence au chapitre 7 et va jusqu'à la fin du livre. C'est la sortie qui, sur la carte, est dite dans le cartouche de la carte « Por el Campo de Montiel », qui est une région du centre de la Castille. Et c'est les points 5 à 16. Et puis, il y a la troisième sortie, qui est l'entière seconde partie du Quichotte, publiée en 1615, au moins à partir du chapitre 7, lorsque Don Quichotte, une fois encore, décide de se lancer sur les chemins poudreux de la Castille, et qui, là, va être désigné par les points 17 à 35 sur la carte. Les indications géographiques précises sont peu nombreuses dans les légendes. Il y en a une au point 22 qui est les lagunes de Ruidera et la grotte de Montesinos, j'y reviendrai, et d'autre part une autre qui est au point 33, la plage de Barcelone, cette plage où, défait par le chevalier de la Blanche Lune, Don Quichotte décide de faire retour pendant une année de pénitence ou d'abandon de son fantasme chevaleresque dans son village. Et il y a une indication géographique est montrée entre 24 et 25, passage dans le royaume d'Aragon, puisque, évidemment, de cette troisième sortie de Don Quichotte qui amplifie ces espaces, il y a le passage de la Manche à la traverser de la Castille pour ensuite entrer dans le royaume d'Aragon dont dépend la Catalogne. L'originalité de cette carte est évidemment dans la cartographie des voyages, des itinéraires ou des itinérances du héros. Ce n'est pas la première fois qu'il y avait une carte d'Espagne dans une édition du Quichotte. La première attestation est en 1781, de nouveau en Angleterre, chez un libraire éditeur de Salisbury, Eaton, mais en même temps qui travaille avec quatre stationers de la Stationers Company, et qui, en 1781, publie une édition du texte en espagnol sous le titre de Historia del famoso caballero Don Quijote de la Mancha, histoire du fameux chevalier Don Quijote de la Mancha, reprenant pour l'ensemble du roman, entre guillemets, le titre de la seconde partie de Don Quichotte, lorsque Caballero a remplacé Hidalgo. Il y a bien une carte d'Espagne qui est dite accommodée à l'histoire de Don Quichotte de la Manche, mais dans cette édition, la carte identifie des lieux, mais elle ne cartographie pas les itinérances ou les voyages de Don Quichotte. C'est une édition qui d'ailleurs participe de ces éditions érudites, puisqu'elle est due à John Bowles, qui a ajouté dans l'édition des index des noms propres, des index des mots, enfin les plus rares ou obsolètes du texte, a ajouté aussi un index des proverbes identifiés, ce que Sancho utilise pour tisser son discours, un index des noms propres, et à cela un index des lieux montrés sur une carte, mais sans que le personnage de fiction se meuve sur cette carte d'un lieu à un autre. L'innovation de l'édition 1780 de l'Académie royale, c'est justement de cartographier des itinéraires, des voyages, trois, qui scandent les deux parties du Quichotte. Alors, la seconde carte, on l'a sous les yeux, elle est de 1797-98. Il y aura une réédition en 1798-1800. Cette fois-ci, l'éditeur, au sens de celui qui établit le texte, est le bibliothécaire du roi, Juan Antonio Pellicer. Il est aussi membre de l'Académie royale d'histoire. C'est un personnage intéressant, un de ces membres de Lumière espagnols de la fin du XVIIIe siècle. Avant cette édition du Quichotte qu'il a pris en charge, il avait donné deux livres qui participent un peu du même horizon savant sur les textes. D'une part, un essai d'une bibliothèque des traducteurs espagnols, un livre publié en 1778, et d'autre part, une nouvelle édition de ce qui était la grande bibliographie de la langue espagnole, qui était la Biblioteca Hispana Nova de Nicolas Antonio, qui datait du XVIIe siècle et dont il donne une réédition corrigée, amendée, augmentée en 1780, dans les années 1780. Alors, l'édition de Pellicer se présente comme toujours une nouvelle édition corrigée. Et elle est aussi riche de paratextes. Il y a pour faire argument publicitaire contre l'édition de l'Académie, on emploie systématiquement au titre le mot de neuf, nouveau ou nouvelle, nuevas notas, il y a de nouvelles annotations, nuevo analysis, une nouvelle analyse qui ne reprend pas celle de Vicente de los Ríos. Il y a une vie de l'auteur nuevamente aumentada, nouvellement augmentée, et présentée comme une nueva edition. Et là, on est avec en fait une édition en neuf volumes, et publié par un des grands libraires éditeurs de Madrid, Gabriel de Sancha, qui était le fils aussi d'un précédent, son père, lui-même libraire éditeur, Antonio Sancha. Et encore la nouveauté est marquée pour les nouvelles estampes, nuevas estampas, qui ornent l'édition. Alors la carte, vous la voyez, le titre en a un peu été changé avec carte géographique des voyages de Don Quichotte et les lieux de ses aventures. Selon les observations historiques de Juan Antonio Pellicer, ce qui renvoie dans les paratextes à une contribution de Pellicer qui a porté une description géographico-historique des voyages de Don Quichotte de la Manche. La nouveauté ici est une nouvelle structuration ou un nouveau découpage avec 45 sites qui sont répertoriés. Je vous rappelais que dans la première carte, que j'espère nous verrons, il n'y en avait que 35, avec la même structure, c'est-à-dire les trois sorties, primera salida, segunda salida, tercera salida, qui correspondent à ce qui étaient les trois voyages de Don Quichotte. Ici, rythmé de façon un peu différente, la première qui correspond comme dans la première carte au point 1 à 4, c'est celle de la sortie de Don Quichotte seul pour le Campo de Montiel. La deuxième qui correspond au point 5 à 16, c'est lorsqu'il sort avec son écuyer, mais por el mismo camino, dans la même zone. Et la troisième, c'est 17 à 45, c'est la seconde partie, avec ici des indications géographiques nouvelles. Le point 35, c'est le moment où Don Quichotte passe l'Ebre, paso el Ebro Don Quijote, et le point 37, c'est le moment où llega Don Quijote en Barcelona. Mais une même structure. Ce qui est intéressant, c'est que cette sorte de présence géographique dans l'édition du Quichotte n'est pas limitée à la seule carte que vous avez sous les yeux, mais est aussi accompagnée de deux autres plans qui apparaissent dans l'édition. L'un qui est celui des lagunes de Ruidera et qui a comme titre les lagunes de Ruidera et du parcours que font leurs eaux en excès sous le nom de Rio Guadiana. Et le deuxième, c'est la caverne ou la grotte, on traduit l'un par l'autre, la cueva, de Montesinos. Et dans les deux cas, et en particulier pour les lagunes, il y a la même crédit scientifique qui est apporté à cette image qui est introduite dans l'édition de l'histoire, puisque le plan des lagunes est donné comme ayant été levé par Juan de Villanova, qui est un architecte du roi et de la ville de Madrid. Et Pellicer dit dans son propre texte, sa propre description historico-géographique, que cet architecte lui a envoyé une lettre avec une description extrêmement précise de ces lagunes de Ruidera et du fleuve Guadiana et de la naissance de ce fleuve. Et d'ailleurs, il en fait bon usage puisqu'il y a 5 pages dans la description historico-géographique de Pellicer qui sont consacrées à ce lieu géographique des lagunes et du fleuve. Alors, ce qui est le plus fondamental, ce qui apparaît ici plus nettement encore qu'en 1780, c'est la circulation qui existe, et qui aurait sans doute enchanté Borges, entre l'invention de la fiction, l'écriture de Cervantes, et d'autre part, cette réalité historique et géographique documentée par l'érudition philologique ou historique et établie par le savoir topographique et géographique. Je vais m'attacher un peu à cela pour montrer comment fonctionne ce mécanisme qui rentre tout à fait dans cette perspective de la confusion du monde du texte et du monde du lecteur. Le plan des deux, les lagunes et la grotte de Montesinos, renvoie au chapitre 22 et 23 de la seconde partie de Don Quichotte. C'est le moment où, dans ce tissu d'aventure, Don Quichotte désire visiter cette caverne de Montesinos dont on parle dans le pays. Je cite, « Il avait grand désir d'y entrer pour voir de ses propres yeux si les merveilles que l'on en disait par tout le pays étaient vraies. » Et du coup, Don Quichotte, après les noces de Camacho, demande à être amené devant ce lieu, la caverne de Montesinos. Et le texte dit au chapitre 22 que le licencié, qui est un des personnages rencontrés préalablement, lui promit qu'un sien cousin, fameux écolier, féru de livres de chevalerie, le mènerait jusqu'à l'entrée même de la caverne et lui ferait voir les lagunes de Ruidera, renommées par toute la Manche et même par toute l'Espagne. Et c'est fin du chapitre 22 et le chapitre 23 sont entièrement voués à la description de cette visite de la grotte de Montesinos par Don Quichotte. Au chapitre 22, cette visite commence ainsi. Don Quichotte déclara que, dût-il descendre jusqu'aux abîmes, il voulait en voir le fond. Ils achetèrent donc près de 200 brasses de cordes et le lendemain, à 2 heures de l'après-midi, ils arrivèrent à la grotte, dont l'entrée est vaste et spacieuse, mais pleine d'ajoncs, de figuiers sauvages, de ronces et de broussailles, si épaisses et emmêlées qu'elles l'obstruent et la masquent toutes. Mais malgré ces obstacles, Don Quichotte descend encordé dans la caverne ou la grotte de Montesinos et effectivement, il rencontre le personnage qui s'y trouve là. Le chapitre 23 a pour titre « Des choses admirables que l'admirable Don Quichotte compta avoir vues en la profonde grotte de Montesinos, dont l'impossibilité et la grandeur font qu'on tient cette aventure pour apocryphe. » Très souvent dans les titres de Cervantes, c'est-à-dire ce jeu avec, en quelque sorte, de discours sur le discours. Alors, cette aventure tenue pour apocryphe, renvoie à cette descente dans la caverne et qui est la rencontre avec Montesinos, qui est un personnage du fond folklorique ou poétique des romances de la tradition orale, romances viejos, et qui est l'histoire empruntée au roman de chevalerie de Montesinos et de son ami Durandarte. Durandarte étant tué à la guerre et demandant à Montesinos de lui extraire du corps le cœur pour le porter à sa bien-aimée Belerma. Et ce sont ces personnages-là qui se trouvent dans la grotte où ils ont été placés là par l'enchantement de Merlin. Et la description de Don Quichotte de ces merveilles est à la fois la description du lieu. Bientôt s'offrit à ma vue un royal et somptueux palais ou forteresse dont les murs et les murailles semblaient être de clair et transparent cristal. Une grande porte à deux battants s'ouvrit et j'en vis sortir et venait vers moi un vénérable vieillard vêtu d'un manteau de bure violette qui lui traînait jusqu'à terre. Et il s'agit de Montesinos, qui compte à Don Quichotte ses aventures, directement empruntées au répertoire des romances et histoires de chevalerie, et qui amène, je ne vais pas entrer dans les détails sur ce qui s'est passé entre Montesinos, Durandarte et Belerma, mais qui amène à la géographie d'une façon merveilleuse dans ce cas, dans la mesure où sont enfermés dans la caverne de Montesinos, comme je le disais, Montesinos lui-même, Durandarte, Guadiana, qui est l'écuyer de Durandarte, la daigne Ruidera, et c'est cette fille et deux nièces, et aussi la dame Belerma, à qui on a apporté le cœur, mais finalement Durandarte n'est pas mort puisqu'il est là dans la grotte, s'éveille et commence un dialogue entre Montesinos et Durandarte, rapporté par Don Quichotte. Et c'est là où se met en place le rapport entre le mythe et la géographie, puisque le texte donc énumère ces présents dans la grotte, mais ajoute que si Durandarte, Belerma, Montesinos sont bien présents, manque Ruidera et ses filles et nièces, qu'en raison de leurs pleurs, et sans doute parce qu'il eut pitié d'elles, Merlin transforma en autant de lagunes qu'on appelle désormais dans le monde des vivants et dans la province de la Manche les lagunes de Ruidera. Les sept filles appartiennent au roi d'Espagne et les deux nièces au chevalier du Très-Saint-Ordre que l'on appelle de Saint-Jean. Guadagna, votre écuyer, qui tout pareillement pleurait votre disgrâce, fut transformé, c'est un discours donc qu'adresse Montesinos à Durandarte, fut transformé en un fleuve qui porte son nom. Et en parvenant à la surface de la terre et en découvrant le soleil de l'autre ciel, tel fut le chagrin qu'il conçut de voir qu'il se séparait de vous, qu'il s'engouffra dans les entrailles de la terre. Mais comme il ne lui est pas possible de toujours délaisser son cours naturel, il ressort et se monte de temps à autre, là où le soleil et les hommes le peuvent voir. Les lagunes susdites le grossissent de leurs eaux, grâce auxquelles, et à bien d'autres encore qui s'y joignent, il entre avec force et en grande pompe au Portugal. Néanmoins, où qu'il aille, il montre sa tristesse et sa mélancolie, et il ne se pique point de nourrir dans ses flancs des poissons délicats et estimés. Les siens sont grossiers et sans goût, fort différents de ceux du Tage doré. Il y a là plusieurs niveaux, registres de textes, puisque dans les parties préalables, les personnages, le licencié rencontré par Don Quichotte, se vouait à écrire un livre qui était une reprise des Métamorphoses d'Ovide. Et donc on a aussi un jeu d'écho ici avec ces métamorphoses, les sept filles transformées en lagunes et l'écuyer transformé en fleuve. Et dans cette métamorphose, le cours particulier de ce fleuve qui disparaît, réapparaît, est nourri par les lagunes et a un cours souterrain, est renvoyé à une histoire, un mythe de l'origine et qui est celui de ses filles et cet écuyer en pleurs. Et l'intérêt de ce passage est aussi de montrer comment une de ces mécanismes, de ces fictions décrites par Borges est en place. Dans la fin de l'histoire, il y a une brouille entre Don Quichotte et Montesinos, à nouveau pour la, comme on peut l'imaginer, la comparaison entre Belerma et Dulcinea. Et Don Quichotte se fait remonter à la surface de la terre. Le statut même de ce qui est décrit est pensé par Don Quichotte ou énoncé par Don Quichotte comme une vision. Sancho lui pense qu'il s'agit d'un autre enchantement de Merlin, que tout ça n'existe pas, mais que l'enchantement a fait croire à Don Quichotte qu'il existait. Et en fait, c'est là où on toucherait un point qui renverrait au texte avec lequel j'ai commencé, c'est-à-dire celui de Borges. Dans le récit même, cela est présenté comme une invention. Au début du chapitre suivant, au chapitre 34 de la seconde partie, on voit comment fonctionne cette mise en abîme et les différents paliers de la narration. Le chapitre s'appelle « Où l'on compte mille broutilles aussi peu pertinentes que nécessaires à la véritable intelligence de cette grande histoire. » Et alors, sous ce titre ironique, on a « Celui qui traduisit cette grande histoire à partir de l'original de celle qu'avait écrit Cide Hamete Benengeli, son premier auteur, dit qu'en arrivant au chapitre de l'aventure de la caverne de Montesinos, était écrite en marge de la main d'Amethée, en personne, les annotations que voici. Je ne puis comprendre ni ne puis me persuader que soit ponctuellement arrivé au valeureux Don Quichotte tout ce qui est écrit au précédent chapitre. La raison en est que toutes les aventures arrivées jusqu'ici étaient possibles et vraisemblables, mais celle de la caverne, je ne trouve pas moyen de la tenir pour vraie tant elle passe les termes de la raison. Pensez pourtant que Don Quichotte ait menti, lui, le plus noble et le plus véridique des chevaliers de son temps, cela n'est pas possible, car il se fut laissé cribler de flèches plutôt que de dire un seul mensonge. Je considère d'autre part qu'il l'a raconté et déclaré avec toutes les circonstances mentionnées et qu'il n'avait pu bâtir en si peu de temps un tel échafaudage d'extravagance. Si donc cette aventure paraît apocryphe, ce n'est pas de ma faute. Et c'est pourquoi je la transcris sans affirmer qu'elle est fausse ou vraie. Toi, lecteur, juge en homme sage ce que bon te semblera, car je n'en dois ni n'en puis davantage. Encore que l'on tienne pour certain qu'au moment de sa fin et de sa mort, Don Quichotte se rétracta, dit-on, et déclara que c'était lui qui l'avait inventée parce qu'il lui semblait qu'elle s'accordait et cadrait fort bien avec les aventures qu'il avait lues dans ses histoires. C'est un des moments, des exemples, c'est un peu une parenthèse que je fais là par rapport à mon fil géographique, où cette superposition ou cette mise en abîme des narrations trouve une expression particulièrement forte, puisque vous avez un narrateur, celui qui écrit, vous avez le traducteur, le morisque, qui a traduit le texte arabe et qui indique que dans l'original du texte de Sidi Amethée Ben Entrelli se trouve une annotation. Et c'est cette annotation que le traducteur traduit. Et cette annotation est un commentaire de Sidi Amethée Ben Entrelli sur les sources, les documents, les archives qui lui servent pour écrire sa propre histoire. Et là, mettant en doute, puisque lui-même transcrit cette état d'information sur Don Quichotte, et transcrit ce qu'il considère comme invraisemblable et ajoute même que selon un bruit public, Don Quichotte l'aurait reconnu lui-même, puisque sur la base des archives et des documents, c'est ce que Don Quichotte a dit ou écrit de sa propre aventure qui sert de urtexte, de premier texte. On voit donc qu'il y a là un dispositif où se superpose les interventions et donc produit à la fois un phénomène de brouillage des degrés de réalité et d'autre part évidemment des effets ironiques et plaisants sur la mise en question du discours par le discours. Cet épisode des lagunes de Ruidera et de Montesinos ne sont pas abandonnés puisque réapparaît la référence à ces lagunes au moment où Don Quichotte arrive à Barcelone et avec Sancho, pour la première fois, voit la mer. C'est un passage très beau, à la fois poétique et comique. C'est au chapitre 61. L'aurore céda la place au soleil qui, du plus bas de l'horizon, découvrait peu à peu un visage plus large qu'une rondache. Don Quichotte et Sancho étendirent leurs regards de tous côtés. Ils virent la mer, qu'ils n'avaient jamais contemplée jusqu'alors. Elle leur parut très vaste et immense, bien plus que les lagunes de Ruidera qu'ils avaient vues dans la Manche. Ils aperçurent les galères au bord de la plage qui, abattant leurs tentes, se montrèrent couvertes de banderoles et de pavillons qui frissonnaient au vent et baisaient et balayaient l'eau. Alors, si on revient sur les plans et sur les effets qu'ils produisent dans le récit, il faut évidemment les rapporter aux commentaires de Pélissère. Le plan de la grotte est présenté au titre comme « Démonstration de la célèbre grotte de Montesinos citée par Cervantes dans son Don Quichotte ». Et c'est donc la fiction qui donne, y compris son nom, à ce phénomène naturel qui est cette grotte bien réelle dont les plans, une coupe, ont été levés par l'architecte du l'architecte dont j'ai, que je mentionnais. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le fait que, malheureusement, je ne l'ai pas reproduit, il y a non seulement une coupe, non seulement un plan, non seulement une coupe de la grotte, mais aussi une image, une vue extérieure. Et en fait, cette vue extérieure sur cette planche, qui est une planche savante, faite par, à partir des relevés de Juan de Villanueva, de sa description des lagunes et de la caverne, représente le moment que j'ai lu, c'est-à-dire le moment où Don Quichotte, Sancho et le cousin du licencié sont approchés de l'entrée de la grotte. Cette gravure, elle est due, se passe sur cette page, cette gravure, elle est due à Parette, qui est en même temps un des illustrateurs de l'édition et peut-être aussi le dessinateur du plan même de la grotte. On voit donc qu'il y a là une modalité particulière de cette articulation du texte, du monde du texte et du monde du lecteur, puisque le phénomène géologique méticuleusement relevé et représenté est là présent à travers sa présence dans la fiction, la célèbre grotte de Montesinos citée par Cervantes dans son Don Quichotte. Et cette manière de faire va donner tout le ton de la description historique géographique de Pélissière, avec laquelle je vais terminer cette première partie avant notre brève pause. Dans la mesure où ce texte, cette description historique géographique de Pélissère, est fondée sur une très grande érudition. Je vous rappelais qu'il était bibliothécaire de la bibliothèque du roi. Et dans cette description historique géographique, il y a de nombreuses citations de documents historiques. Par exemple, ce qu'il appelle les relaciones de los pueblos de España, les relations des peuples d'Espagne, qui sont une extraordinaire série documentaire demandée sous forme d'une enquête dans toute l'Espagne par Philippe II en 1574, renouvelée en 1578, c'est-à-dire que pour chaque communauté, village, des enquêteurs remplissent une sorte de formulaire déjà préétabli dans lequel on décrit la géographie du lieu, des éléments historiques, les ressources, les nombres des habitants, la nature de la population, ce qui est devenu dans l'historiographie sur l'Espagne du siècle d'or, les Relaciones Topográficas, et qui sont un document extrêmement premier et sans doute une des premières grandes enquêtes de type démographique, géographique et économique de l'époque moderne. Dans un autre moment, Pélissère parle de ces documents qu'il a vus dans la bibliothèque du roi comme des « indicaciones históricas, geográficas et económicas », historiques, géographiques et économiques. Et il se sert de ces documents dans un rapport avec le texte de Cervantes, par exemple, pour évoquer quelles sont les origines, les opinions des habitants de la communauté de Daimel sur les origines du rio Guadiana. Il utilise des références érudites, une histoire de Tolède, du père Román de la Higuera, qui est un jésuite et qui avait écrit en 1592 une histoire ecclésiastique de Tolède sur la description que fait cet historien de l'origine romaine des lagunes une maison de pêcheurs, une ville construite là, mais ruinée, et confrontant ce texte d'un chroniqueur érudit avec des déclarations des habitants à la fois de la ville de Osor et de Montiel, dans une de ses relaciones geográficas, il montre que cette ville avait été ensuite reprise comme site pour un village des Maures, utilisant les matériaux laissés par les ruines de la ville romaine. Il y a donc tout un arrière-fond d'érudition, y compris critique, parce que ce père Roman de la Higuera n'avait pas toujours réputation d'exactitude, dans la mesure où il est un de ceux qui avait donné crédit à une histoire dont on trouve un écho d'ailleurs dans le Quichotte, qui était l'histoire des livres de plomb du Sacromonte, c'est-à-dire une découverte qui montrait que les envahisseurs arabes de l'Espagne étaient en fait déjà chrétiens, et donc qui, d'une certaine manière, faisaient gommer un aspect de l'invasion, c'est-à-dire terre d'islam, pour prouver que par différents moyens, des reliques, des textes, qu'il y avait déjà une première forme de christianisation dans ces populations arabes, qui a été évidemment critiquée, y compris dès le XVIIe siècle, par des érudits dévoilant les livres de plomb du Sacromonte comme des supercheries ou des faux. Donc, pour utiliser ce témoignage, Pélissère est obligé de séparer ce qui lui paraît tout à fait authentique dans la description des lagunes de Ruidera de cette invention et falsification qui portait sur les livres de plomb. Du coup, cette érudition qui sature cette description historico-géographique, évidemment, situe le texte de Cervantes dans un horizon qui n'est pas seulement celui d'une invention de fiction. D'autant que les corrections qu'apporte Pélissère au texte de Cervantes en termes de réalité objective ne peuvent que renforcer cette indécision. Par exemple, citant la lettre de Villanueva, l'homme qui a fait les relevés des lagunes de Ruidera, il dit qu'on a peu marqué qu'il y a 13 lagunes, chacune ayant leur nom, alors que, dit Pélissère, Cervantes n'en a mentionné que 9, les 7 filles plus les 2 nièces personnage Ruidera, et que, y compris dans les relations géographiques, on peut n'en mentionner parfois que 11, comme le font les habitants de Armagacía ou de la Osa de Montiel. On voit qu'il y a un dispositif ici qui domine toute cette approche chronologique et géographique de Vicente de los Ríos, qui, dans un permanent va-et-vient entre le texte de Cervantes pris au pied de la lettre et, d'autre part, cette érudition, qui est une érudition du type de l'histoire au XVIIIe siècle, retour aux sources, par exemple les relations des peuples d'Espagne, jugement critique sur les chroniques ou les histoires, en fait, redonne une dimension d'objectivité au texte de Cervantes, là même où ce savoir sert à montrer que Cervantes a commis telle ou telle erreur, et par exemple sur le nombre des lagunes de Ruidera. Il y a sûrement là une manière, un autre de ces dispositifs que voquait Borges pour désigner cette entrée dans la confusion entre le monde du texte et le monde du lecteur. Et dans la deuxième partie de cours aujourd'hui, on suivra cet cette histoire, des cartes dans les éditions du Quichotte, mais aussi des effets que produit sur l'interprétation, la lecture, l'appropriation du Quichotte, cette présence d'une réalité géographique traduite dans la publication cartographique.